Nous voulons encore recommander au Seigneur cette heure d'études bibliques que nous avons en commun. Est-ce que notre sœur, Mlle Camille Font, peut nous conduire dans la prière? Le livre d'Ésaïe, l'Himalaya de toute la Bible, le livre qui est le plus long à émaner d'un seul auteur, le livre qui, entre tous les prophètes de l'Ancien Testament, est le plus riche en annonces qui nous concernent directement parce qu'elles concernent notre Seigneur Jésus et ce qu'il est venu faire pour nous. Nous n'avons que quelques séances à lui consacrer dans le cycle de ses études sur les livres des prophètes. Nous avons vu dans un premier temps quelques généralités sur le livre dans son ensemble, sur la vocation d'Ésaïe. Puis nous avons étudié de manière plus particulière un cycle de prophéties reçues et transmises par Ésaïe dans sa jeunesse, peu de temps après son appel au ministère, et qui tournent autour du personnage d'un enfant, un enfant qui va grandir et devenir un roi de paix et de justice, un enfant qui reçoit le nom d'Emmanuel. Nous avons la fois dernière étudié les prophéties de l'Emmanuel, et bien sûr, nous avons discerné que cet Emmanuel est venu en la personne de Jésus, comme d'ailleurs le début de l'évangile de Matthieu nous le certifie. Nous sommes obligés d'aller à très grands pas dans la lecture du livre et de ne pas donner toute l'attention qu'elle mériterait à beaucoup de prophéties intéressantes. Et aujourd'hui, nous nous portons vers un deuxième cycle de prophéties très fameuses, très riches de sens, les prophéties qui tournent autour d'un personnage assez mystérieux appelé par l'Éternel « mon serviteur ». Elle se trouve dans la deuxième grande partie du livre d'Ésaïe, celle qui commence au chapitre 40, et nous allons, dans le coup d'œil que nous jetterons, bien sûr, parcourir des textes qui pourraient faire l'objet chacun d'une étude prolongée. Il s'agira plutôt de vous mettre en appétit pour une étude personnelle plus poussée que de traiter de manière exhaustive tout ce qu'on pourrait découvrir dans les chapitres en cause. Je commence par situer ces grands oracles, ces grands poèmes qui sont paroles de Dieu et qui tournent le regard des auditeurs du prophète vers l'avenir. Je commence d'abord par les situer dans la vie du prophète telle que nous l'avons schématisé la première fois. Vous vous rappelez qu'Ésaïe a eu un fort long ministère, qu'il a été appelé tout jeune homme, alors qu'il se préparait sans doute pour une carrière de haut fonctionnaire à Jérusalem. Il a été appelé en 740 ou 739 avant Jésus-Christ. Il a vu défiler plusieurs rois. Et c'est plutôt vers la fin de sa vie qu'ayant lui-même l'oreille du roi pieux Ézéchias, il a connu comme un moment de crise à Jérusalem. Le roi Ézéchias, qui était un roi fidèle en général, a commis une imprudence. Il a reçu une délégation d'indépendantistes babyloniens qui voulaient se révolter contre le joug assyrien qui pesait sur eux, et sans céder à leurs propositions, sans aller dans le sens de leur proposition de ligue anti-assyrienne, il a quand même été un peu flatté que lui, le petit roi, parce que Juda c'était un petit royaume quand même, que lui, le petit roi de Juda, soit sollicité par des ambassadeurs d'un prince de Babylone, alors que Babylone jouissait d'un très grand prestige dans tout le monde d'alors, avec la merveille du monde que constituaient ses jardins suspendus, par exemple. Il a été flatté, et alors il leur a fait la petite visite guidée des trésors de son palais, des trésors du temple de l'Éternel. Il voulait leur montrer que oui, il était quand même quelqu'un d'important, lui, le roi de Juda. Et le prophète Ésaïe, cela nous est rapporté au chapitre 39 de son livre, a reçu de la part du Seigneur une parole de réprimande pour le roi Ézéchias. Je résume cette parole de la manière suivante. Le Seigneur a fait dire à Ézéchias, tu n'es qu'un pauvre petit sot. Voilà, ces Babyloniens à qui tu fais la risette, à qui tu montres tout comme ça, eh bien sache qu'ils vont amener tes descendants captifs, qu'ils vont en faire des eunuques pour leur palais, qu'ils vont déporter toute ta population, qu'ils vont emporter tous ces trésors. Ce n'est pas arrivé tout de suite. Le message disait aussi que ce ne serait pas dans la vie d'Ézéchias que cela se produirait. Et alors, le roi Ézéchias a eu une réaction fort humaine, après moi le déluge. Il a dit, bon, c'est finalement pas si mal, cet oracle, c'est finalement pas si mal, puisque ce ne sera pas pendant ma vie. Mais le prophète, donc, a su, c'était quelques années avant le siège de Jérusalem, pour lequel Dieu est intervenu de manière miraculeuse, le siège effectué par les Assyriens, là. Donc, quelques années sans doute, 2-3 ans avant l'année 701, le prophète, lui, a médité le message qu'il avait porté au roi. Il a certainement réfléchi et conduit par l'Esprit de Dieu à cette prédiction d'une déportation babylonienne. Dans la suite des temps, les armées babyloniennes dévasteraient le pays, emmèneraient captifs les Judéens, les habitants de Jérusalem, pilleraient le temple. Il a médité ces choses et Dieu, dans les années qui ont suivi, on ne peut pas dater cela de manière très très précise, 695, 692, quelque chose comme ça, lui a accordé un message à écrire à l'avance pour les exilés de l'exil de Babylone, pour ses descendants qui avaient été évoqués dans le message au roi Ézéchias, qui allait être déporté. Il ne savait pas à ce moment-là combien de générations après, n'est-ce pas, qui allait être déporté après le règne du roi Ézéchias en Babylonie. Les chapitres 40 et suivants du livre d'Ésaïe sont des chapitres qui ne s'adressent plus strictement à ses contemporains, aux gens qui vivaient en 700, 695, 692, mais à ceux dont le prophète prévoit qu'ils seront déportés en Babylonie, établis là, dans des villages, parce qu'ils n'étaient quand même pas dans des camps, ils n'étaient pas derrière des barbelés, hein, mais déportés loin de chez eux, découragés certainement, tentés de penser que, finalement, le Seigneur s'était montré moins efficace que les dieux de Babylone, puisque le temple et la ville allait être prise, alors ces déportés allaient certainement penser qu'en fait les dieux babyloniens avaient été plus forts. C'est comme ça qu'on pensait à cette époque. Quand un peuple l'emportait sur un autre, on estimait que les dieux de ce peuple s'étaient montrés les plus forts. Alors il a un message que d'avance il consigne sur papyrus, probablement sur papyrus ou sur tablette d'argile, pour les futurs exilés de Babylone. C'est un message qu'il a sans doute écrit plutôt que prêché sur la place publique, puisque c'était un message donné à l'avance. Alors, il est un peu plus long, il s'agit de discours plus organisés que dans les discours qu'il donnait sur la place publique, où c'était, si vous voulez, davantage des petites phrases et un style qui avait beaucoup de punch. Puis il y a aussi peut-être qu'il avait un peu vieilli et que facilement un jeune prédicateur y va très très fort et c'est presque de la boxe. Et puis quand il mûrit, quand il vieillit, il fait peut-être des phrases un peu plus longues, il parle de façon peut-être un peu plus calme. C'est ce qu'on trouve dans les chapitres 40 et suivants du livre d'Ésaïe. Je vous signale, mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vous signale qu'à cause de ces différences que je viens de mentionner, et surtout parce qu'ils ont vraiment de la peine à croire que quelqu'un puisse recevoir une révélation surnaturelle longtemps à l'avance, vous avez des tas de gens qui vous disent « mais c'est pas d'Ésaïe ». Ce n'est pas d'Ésaïe, ça n'a pas été écrit à l'époque où la Bible dit elle-même que ça a été écrit, c'est quelque chose qui a été rajouté bien plus tard par un disciple d'Ésaïe. Oui, il a un peu imité son style, il a repris son esprit, mais ça a été écrit en fait parmi les exilés au moment où les choses se passaient. Dans les introductions que vous avez, par exemple, dans la Bible Tob, la traduction écuménique de la Bible, ou dans la Bible de Jérusalem, ou la Bible du chanoine Ostie, par exemple, vous avez ce genre de position qui est énoncée. Alors ne vous y laissez pas prendre. Si l'on se courbe entièrement, si l'on demeure attaché indéfectiblement à l'autorité du texte biblique comme parole de Dieu, on n'a aucune raison de retirer à Ésaïe ces chapitres-là. Comme les juifs pieux tout au cours des siècles et les chrétiens ensuite l'ont reconnu, il s'agit d'une prédiction faite à l'avance, d'un message donné presque deux siècles à l'avance aux prophètes pour les exilés, et qui d'ailleurs ne concerne pas seulement ces exilés qui étaient encore de futurs exilés pour le temps du prophète Ésaïe lui-même, mais qui concerne aussi les générations bien au-delà, en fait jusqu'à la nôtre. L'horizon ultime de ces prophéties, ce n'est même pas ce qui concernait immédiatement les exilés de Babylone, qui ont vu s'accomplir un certain nombre des choses dites dans la deuxième partie du VIe siècle avant Jésus-Christ, à partir de 539. L'horizon ultime va bien au-delà. Il concerne les réalités du Nouveau Testament et celles-mêmes pour certains passages qui ne se sont pas encore accomplis, mais dont l'accomplissement des premières nous assure qu'elles s'accompliront aussi. Le prophète parle donc à ses exilés, qu'on voit bien dans les premiers passages, au chapitre 40 surtout, découragés. Découragés. Le Seigneur nous oublie, le Seigneur ne sait pas. Ils sont tentés par les idoles parce que le prophète est obligé d'exercer toute son ironie à l'égard de ces dieux babyloniens et de leurs images, dont le culte peut être une tentation pour les exilés de Babylone. Et le prophète leur annonce que Dieu, après le temps d'épreuve, va intervenir en leur faveur, qu'il va leur montrer qu'il n'est pas seulement le Dieu d'un petit coin de terre seulement, qu'il est le Dieu de toute la terre, de toutes les nations, et que précisément, s'il a donné la victoire aux Babyloniens, selon la prophétie d'Ésaïe en 600 et quelques, un peu avant 600, puis un peu après 600, c'est qu'il est non pas seulement le Dieu d'un petit peuple, qui est obligé en quelque sorte de toujours venir au secours de son peuple, mais qu'il est le Dieu universel, Dieu de justice qui ne fait pas exception de personne, mais que le Dieu de toute la terre qu'il est peut aussi intervenir avec miséricorde en faveur du peuple qu'il a plus spécialement choisi, la race d'Abraham, son ami. Il l'appelle ainsi, Abraham, mon ami. Le prophète annonce de la part de Dieu le retour de l'exil. Cet exil si douloureux va prendre fin et les exilés pourront retourner triomphalement à Jérusalem, restaurer la nation et le culte. Voilà ce qu'annoncent globalement ces chapitres 40 et suivants, qu'on pourrait appeler le livre de la consolation d'Israël, car Dieu commence en disant « Consolez, consolez mon peuple ». C'est le début du chapitre 40. Ce retour de l'exil est présenté très souvent dans ces chapitres sous la figure d'un nouvel exode. Parce que la situation était en quelque sorte analogue à celle que le peuple avait connue avant même d'être constitué en nation. Vous vous rappelez un petit peu le schéma de l'histoire biblique? Vous vous rappelez que Dieu avait choisi Abraham, lui avait annoncé que sa descendance posséderait le pays d'Israël, qu'il avait commencé à avoir quelques enfants, et Isaac, l'enfant miraculeux qui était celui par qui la promesse allait s'accomplir, qui allait bénéficier de son accomplissement. Puis Isaac lui-même avait eu seulement 2 enfants, mais enfin Jacob, heureusement, lui, avait eu une descendance plus nombreuse. Mais la famine avait frappé. Qui n'avaient pas vraiment leur résidence dans ce pays, et ils avaient dû passer en Égypte, où Joseph, vous savez, l'un des fils de Jacob, s'était élevé jusqu'à la position de premier ministre, grâce à l'intervention de Dieu. Ils étaient passés en Égypte pour pouvoir subsister. D'abord, ça s'était très bien passé, mais le pharaon avait changé, et la descendance de Jacob, qui s'était multipliée, était devenue une population d'esclaves, utilisée pour des corvées très pénibles par les Égyptiens. Alors ils se multipliaient, et les Égyptiens prenaient peur d'ailleurs, en se disant, oh là là, cette différence de taux démographique est inquiétante. S'ils deviennent trop nombreux, alors il les opprimait d'autant plus. Ce pays d'Égypte est appelé de manière tout à fait régulière et classique la maison de servitude dans les textes de l'Ancien Testament, selon la traduction à laquelle sans doute vous êtes le plus habitué. Et vous savez, la vraie traduction en français courant de maison de servitude, ce serait simplement le bagne. C'était le bagne pour les Israélites. C'était là un lieu où ils étaient enfermés et utilisés pour des travaux forcés qui leur étaient extrêmement pénibles. Et le Seigneur est intervenu en suscitant Moïse, comme vous vous le rappelez, pour les délivrer du bagne, pour les faire sortir d'Égypte et pour les reconduire à travers bien des péripéties jusqu'à la terre qui avait été promise par serment à leurs ancêtres. Ça a été le premier exode qui s'est situé au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il y a des discussions sur la date tout à fait exacte. Alors 1400, 1200, c'est débattu, je n'entre pas dans ce détail. Mais ce souvenir était le grand souvenir national. Après être sorti d'Égypte, dans le désert, le peuple était entré dans une alliance solennelle dont Moïse avait été l'instrument. Le peuple avait reçu la loi de Dieu, la Torah, et puis ensuite avait conquis le pays de Canaan pour en faire la terre d'Israël. Et c'était le grand souvenir qu'on se répétait, les hauts faits du Seigneur en faveur des siens. Eh bien, le prophète Ésaïe annonce dans les chapitres 40 et suivants que Dieu va opérer un nouvel exode. En fait, il l'avait déjà dit dans sa jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans le chapitre 11, nous avons évoqué déjà le thème, il y est. En étudiant le chapitre 11, nous l'avons évoqué. Mais là, maintenant, ça devient le grand thème. Ce retour de l'exil à Babylone, vous êtes de nouveau sur une terre de bagne. Ce retour de l'exil va être comme un nouvel exode pour le peuple qui va revenir en Canaan. Et Dieu parle, en utilisant ce thème du nouvel exode, de 2 personnages, qui sont appelés l'un et l'autre serviteurs d'ailleurs, de 2 personnages qui vont jouer un rôle clé dans le nouvel exode. Le premier, il en donne le nom, le prophète en donne d'avance le nom, c'est Cyrus. Cyrus le Grand, l'empereur des Mèdes et des Perses, qui, d'après ce que nous dit tout spécialement le chapitre 45 au début, mais en fait ce Cyrus entre en scène déjà au chapitre 41, sans être nommé alors, mais il est nommé au début du chapitre 45, ce Cyrus sera l'homme à qui Dieu va donner la victoire, qui va soumettre l'Empire babylonien et qui va permettre le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem. C'est lui qui prendra les décrets devenu le maître de tout le Moyen-Orient par la volonté de Dieu, qui va prendre les décrets qui permettront le retour. Ce Cyrus, en hébreu Koresh, ce Cyrus est bien connu de l'histoire. Il a réussi, c'est un coup de maître, je vous dis ça très 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 brièvement, il a réussi à unir deux populations passablement turbulentes, surtout l'une d'elles, dont l'union a fait la force, ce qui a permis la conquête du Moyen-Orient. Il était lui-même, par son père, l'héritier de la dynastie des rois de Perse, mais la Perse, à ce moment-là, c'était encore un petit pays, ce n'est pas une grande puissance. Mais par sa mère, il était fils des rois de Médie. Il était l'héritier de la dynastie des Mèdes. Alors les Perses, c'était de bons administrateurs, des pays, plutôt des régions agricoles. Les Mèdes, eux, c'était des montagnards, farouches, très efficaces au combat. Ils avaient des qualités complémentaires. Séparément, ils pouvaient un peu ennuyer leurs voisins, mais ils n'étaient pas quand même capables de tout se soumettre. Et le jeune Cyrus a réussi à les unir sous son commandement et à devenir donc ainsi le chef d'une puissance importante qui a conquis l'ensemble de ce monde connu, l'ensemble de ce Moyen-Orient du VIe siècle avant Jésus-Christ. Où il a mis du temps à constituer toute cette puissance, de telle sorte que quand il a pris le pouvoir à Babylone et ainsi accompli les prophéties d'Ésaïe, il avait déjà une soixantaine d'années. Donc il n'était plus tout jeune, mais c'est lui qui a été l'instrument de ce nouvel exode qui a permis le retour des exilés de Juda, Jérusalem, Israël. Ceux d'Israël, les tribus du Nord, avaient été déportés précédemment, mais aussi dans les mêmes régions. Alors il y a eu à ce moment-là un mélange. Mais derrière ce Cyrus, qui nous est présenté au chapitre 41, et puis ensuite encore 44, à la fin de 44, début de 45 en particulier, un autre personnage se profile dans ces chapitres d'Ésaïe. Alors pour lui, il n'y a pas de nom qui soit prononcé, c'est seulement le titre de serviteur qui est employé. Il surgit dès le chapitre 42. Et là on se rend compte qu'il c'est un peu un anti-Cyrus. Parce que Cyrus, chapitre 41, on nous le dit, il fait beaucoup de bruit. Ce sont des guerres éclairs, tous les peuples tremblent à l'ouïe de ses victoires, même les populations des régions lointaines, côtières de la Méditerranée. C'est un conquérant fracassant, comme le sont tous les grands conquérants de l'histoire. Et puis le serviteur qui est présenté au chapitre 42, lui alors, il n'élève pas la voix. Pas de bruit dans les rues, sur les places. Un comportement discret, patient. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Un comportement tout autre que celui de Cyrus. Et puis, peu à peu, dans des passages qui sont parsemés dans les chapitres du livre, la physionomie de ce serviteur se dessine plus précisément. Un mystère aussi se dévoile peu à peu, celui d'une destinée de souffrance, très très étrange pour celui que Dieu va susciter afin d'accomplir le salut de son peuple. Et ce personnage, alors, qu'on appelle couramment le serviteur de l'Éternel, finalement prend beaucoup plus d'importance que Cyrus. Dans l'économie même du texte, on voit que peu à peu Cyrus disparaît du champ de vision, il remplit son rôle, il permet au peuple de retourner, mais après ça on ne parle plus de lui, et au contraire de ce serviteur de l'Éternel qui vient et dont on annonce les souffrances. On souligne aussi qu'il s'élèvera dans une gloire incomparable, qu'il partagera le butin avec la multitude. Ce serviteur prend une importance tellement grande qu'il y a un commentateur qui me semble avoir très bien définit les rôles respectifs de Cyrus et du serviteur. Il s'appelait George Adam Smith au siècle dernier, en disant, en fait, Cyrus, c'est comme le pilote du remorqueur qui fait sortir le navire du port, mais le capitaine du navire, c'est le serviteur. C'est le serviteur de l'Éternel. Le Nouveau Testament cite sans arrêt ces prophéties du serviteur et nous assure qu'elles se sont accomplies en Jésus. C'est Jésus qui est venu comme le serviteur. Il a fallu quelques siècles, vous voyez, de décalage. Mais le nouvel Exode, il ne s'est accompli qu'en une première phase géographique, littérale, lorsque les exilés de Babylone sont revenus, grâce au décret pris par Cyrus. Mais le vrai nouvel Exode, le véritable accomplissement de tout ce que préfigurait le premier Exode, c'est par Jésus que cela s'est accompli. Il est le vrai leader du nouvel Exode et c'est par lui que le nouvel Exode, la libération radicale, totale, s'opère. Car la captivité la plus dure, ce n'est pas celle des Égyptiens ou des Babyloniens, c'est la captivité des fautes que les hommes ont commises et de la condamnation qui pèse sur eux à cause de leurs fautes. Alors il vaut la peine de scruter un peu le détail de ces grands passages, d'abord aussi de bien les situer dans le livre d'Ésaïe, et nous allons maintenant, cette introduction, vous voyez, longue introduction, il fallait qu'elle soit fournie quand même, cette introduction faite, nous allons prendre chacun des grands passages à son tour, en soulignant seulement quelques points chaque fois. Il y en a quatre grands, mais il y a quelques autres plus courts passages qui, à mon avis, doivent aussi être associés à la révélation du serviteur de l'Éternel. Le premier, comme je l'ai annoncé, se trouve au chapitre 42. Et je pense qu'on peut aller jusqu'au verset 9. À son propos. Je dis « je pense qu'on peut aller » parce que ce n'est pas une chose sur laquelle tous s'accordent. Tout le monde est d'accord en ce qui concerne le premier verset, le début du passage. Mais Ésaïe semble avoir utilisé une technique très délibérément de rattachement au contexte qui est et l'annonce globalement du retour de l'exil, du nouvel exode. De telle sorte que chaque fois qu'il introduit un passage sur le serviteur, il s'arrange pour qu'il y ait quelques versets qui vous fassent glisser dans le contexte. Alors, à quel moment vous allez couper exactement le passage sur le serviteur? Ce n'est pas très très facile à discerner toujours et peut y avoir quelques débats. J'ai adopté pour ma part donc une délimitation assez généreuse qui donne chaque fois pratiquement la longueur maximale au passage concerné, en accord en particulier avec F.F. Bruce, le professeur très très fameux qui était à l'université de Manchester. Donc je pense que cela peut être admis. Pour ces passages, comme j'ai beaucoup travaillé sur eux, vous savez, j'ai un petit livre en anglais, j'espère un jour écrire quelque chose en français, j'ai fait ma propre traduction. Alors je vous lis ma propre traduction ici. Voici mon serviteur, je le soutiens, mon élu, je l'approuve de tout cœur. Je mets mon esprit sur lui, il édictera le droit pour les nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, pas d'éclat de voix dans les rues. Le roseau fléchit, il ne le brisera pas, la mèche faiblissante, il ne l'éteindra pas. Selon la vérité, il édictera le droit. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, qu'il n'ait établi le droit sur la terre et que les lointains rivages mettent en sa Torah leur espoir. Ainsi parle le Dieu éternel, le créateur et le déployeur des cieux, organisateur de la terre et de ses productions, donateur de l'esprit au peuple qui s'y trouve, du souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis la main, je te garde et je t'établis comme alliance du peuple, comme lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir du cachot le captif, de la maison d'arrêt ceux qui étaient à l'ombre. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la cède à aucun autre, ni ma louange aux idoles. Les premiers événements, voici, ils ont eu lieu. J'en annonce de nouveau. Avant qu'ils ne germent, je vous les laisse entendre. Voici le premier texte qui fait surgir l'image du serviteur devant nos yeux quand nous suivons l'ordre du prophète Ésaïe. Vous avez remarqué donc cette discrétion qui est annoncée de ce serviteur, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, mais ce n'est pas le seul trait qui mérite qu'on le remarque. Quand on essaye de voir quelle sorte de serviteur pour Dieu ce serviteur sera, il me semble que ce qui frappe d'abord, c'est qu'il ne maniera pas la lance ou l'épée, qu'il n'est pas question de gouvernement, mais qu'il s'agit plutôt d'un rôle d'enseignement, d'un rôle de diffusion de la parole de Dieu et de soins patients des autres. Il ne faiblira pas, qu'il n'ait établi le droit sur la terre et que les lointains rivages mettent en sa Torah leur espoir. C'est le dispensateur d'une Torah, d'une loi, une instruction divine, comme Moïse, qui lit le mot Torah, parce que c'est le mot qui se trouve dans l'original ici, à mon avis, ne peut pas penser à Moïse. Et n'est-il pas naturel que, parlant d'un nouvel exode, le prophète annonce un nouveau Moïse? Mais oui, je crois que c'est la clé pour bien situer dans le contexte d'Ésaïe ce qu'il pouvait savoir en son temps, cette figure du serviteur. Il va y avoir un nouvel exode, et pour conduire ce nouvel exode, il va y avoir un nouveau Moïse. Cyrus, eh non, il ne peut pas jouer le rôle de nouveau Moïse. C'est un conquérant païen, un instrument dont Dieu se sert, mais celui qui conduira le nouvel exode, ce sera un nouveau Moïse, et c'est bien ce que suggère le verset 7. Je t'établis pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir du cachot le captif, de la maison d'arrêt ceux qui étaient à l'ombre. Et oui, ces Israélites sont captifs en Babylonie, et la terre de Babylone, l'Irak aujourd'hui, c'est le cachot pour eux. Et la mission de ce serviteur, c'est de libérer ceux qui sont captifs. Nouveau Moïse. Oui. Et puis il n'y a pas seulement la tâche de libération que Moïse avait accomplie autrefois pour sa génération. Il y a donc la Torah à dispenser. Moïse a été l'instrument par lequel Dieu a donné sa Torah à son peuple. Et il y a le thème de l'alliance. Je te garde et je t'établis comme alliance du peuple. C'est déjà l'idée que pour correspondre à un nouvel exode, il va y avoir une nouvelle alliance. Moïse a été l'homme de l'alliance, le médiateur utilisé par Dieu pour conclure son alliance avec le peuple de l'ancienne alliance. Et voici le serviteur qui nous est présenté comme alliance du peuple. Il n'est même pas dit comme l'instrument de l'alliance, comme celui par qui l'alliance sera conclue. C'est même en sa personne, si on prend les choses littéralement, parce que là c'est une traduction tout à fait littérale. Je t'établis comme alliance du peuple. C'est en sa personne que le lien entre Dieu et son peuple sera établi. Un nouveau Moïse, mais donc un nouveau Moïse plus grand que l'ancien encore. Ce que suggère en deux traits de plus dans le texte que nous avons sous les yeux. Le fait que non seulement il sera alliance du peuple, mais aussi lumière des nations. Ah, lumière des nations, cela, nul n'a pu le dire de Moïse. Un rôle universel, comme le Seigneur se révèle comme le Dieu universel de manière insistante dans l'ensemble de ses chapitres, son serviteur sera aussi la lumière des nations pour tous les peuples. Et puis, et d'ailleurs il est dit, les lointains rivages mettent en sa Torah leur espoir. Alors que pour Cyrus, il est dit que quand ils entendent parler de Cyrus, ils tremblent, là, ils peuvent se tourner vers le serviteur. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait, c'est « je mets mon esprit sur lui ». Oui, certes, Moïse avait aussi reçu une aide de l'Esprit de Dieu, mais à ce point, « je mets mon esprit sur lui, je l'approuve de tout cœur, c'est mon élu ». À ce point, non, il n'en est pas dit autant de Moïse, du premier Moïse. C'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, celui en qui Dieu met toutes ses complaisances, tout son amour, toute son affection. Il est en communion étroite et il a l'esprit et non pas avec mesure. Je mets mon esprit sur lui. C'est cette parole du début du chapitre 42 qui a été citée par le Père lors du baptême de Jésus au Jourdain. En changeant juste un mot, au lieu de serviteur, c'est le mot de fils qui a été employé. Mais la suite vient ici d'Ésaïe 42. Je mets en lui toute mon affection, c'est l'équivalent, dans le grec du Nouveau Testament, de la formule que j'ai traduite ici, je l'approuve de tout cœur. Oui. La parole dite du ciel au Jourdain, lors du baptême de Jésus, fait la combinaison du psaume 2, j'ai dit « tu es mon fils oui. », et puis ici de cette prophétie d'Ésaïe 42. Jésus est désigné comme le serviteur au moment où il entre dans son ministère public lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste. Voyez que déjà se dessine à nos yeux le personnage du serviteur, nouveau Moïse, qui dispensera sa loi et qui permettra l'accession à la vraie liberté du peuple de Dieu dans une alliance nouvelle ou renouvelée. Il y a un point qui n'est pas éclairci, me semble-t-il, dans cette première présentation, qui reste flou et qui nous intrigue. Le verset 3 dit « Le roseau fléchi ne le brisera pas, la mèche faiblissante, il ne l'éteindra pas. » Oui, cela nous le comprenons aisément. Le prophète s'adresse à des hommes découragés, et c'est la bonté si différente de ce qu'on trouve chez Cyrus, c'est cette bonté patiente de la part du Seigneur que le serviteur va démontrer. Mais le texte continue en disant « il ne faiblira pas, il ne fléchira pas ». Pourquoi souligner cela? Pourquoi employer à nouveau les mêmes mots? Parce que ce sont les mêmes mots dans l'original. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas. Cela suggère que des pressions vont s'exercer sur lui, qu'il y aurait pour lui lieu de faiblir et de fléchir. Si cela nous est dit, c'est que le prophète prévoit sans doute déjà, conduit par l'Esprit de Dieu, il ne comprend sans doute pas tout ce qui va se passer, mais que le prophète quand même discerne que ce ne sera pas facile pour le serviteur. Moïse, déjà, a dû faire face à pas mal d'adversités, mais là, est-ce qu'il y a autre chose encore? C'est ce que le deuxième passage va commencer à nous révéler. Le deuxième passage, grand passage, se trouve au chapitre 49. Et ce sont les 13 premiers versets. que je prends comme le deuxième grand passage. Rivage lointain, écoutez-moi, prêtez l'oreille, peuplade des confins. Dès le sein, l'Éternel m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il a énoncé mon nom. Il a fait de ma bouche comme une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a dissimulé. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a mis en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, c'est toi, mon serviteur, Israël, par qui je ferai resplendir ma gloire. Mais moi, j'ai dit, je me suis fatigué pour rien. Pour un résultat nul et vain, j'ai consumé ma force. En réalité, mon droit était auprès de l'Éternel et mon œuvre auprès de mon Dieu. Et maintenant, a dit l'Éternel, lui qui m'a façonné dès le sein pour faire de moi son serviteur, pour faire revenir à lui Jacob, pour lui rassembler Israël, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Mon Dieu s'est fait ma force. Il m'a dit, c'est trop peu pour toi d'être mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour faire revenir les rescapés d'Israël, je t'établis comme la lumière des nations, pour que mon salut soit présent jusqu'au bout de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise profondément, que la nation abomine, à l'esclave des gouvernants. Des rois à cette vue se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable je t'exauce, au jour du salut je te secours, je te garde et je t'établis comme alliance du peuple pour relever la terre et restituer les héritages dévastés, pour que tu dises aux prisonniers, sortez à ceux qui croupissent dans l'ombre, vous pouvez réapparaître. Ils paîtront auprès des chemins, sur toutes les collines ils auront des pâturages, ils n'auront plus ni faim ni soif, ni simoun ni soleil ne les feront souffrir, car celui qui les prend en pitié les conduira, près du jaillissement des sources il les guidera. De toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes chaussées seront remblayées. Les voici, ils arrivent de loin, voici ceux du nord et de l'ouest, ceux-ci du pays d'Aswan. Cieux, criez de joie, terre exulte, éclatez montagne en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Indubitablement, il s'agit encore du serviteur, de ce même personnage, de celui qui nous a été présenté au chapitre 42, et vous avez reconnu les mêmes expressions qui sont tout à fait caractéristiques. Lumière des nations, alliance du peuple, le rôle de libération pour tous ceux qui sont dans les cachots. Et cette fois, il est clair qu'ensuite, après la libération, il y a la traversée du désert. C'est le nouvel exode qui se déroule. Vous avez donc remarqué ces choses et l'insistance avec laquelle Dieu souligne que le nouveau Moïse sera bien plus grand que l'ancien. C'est trop peu pour toi, verset 7, d'être mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour faire revenir les rescapés d'Israël. Je t'établis comme la lumière des nations pour que mon salut soit présent jusqu'au bout de la terre. Oui. Donc c'est un Moïse pour l'univers, pas seulement pour les descendants charnels de Jacob. Vous voyez donc que nous avons bien confirmation dans ce deuxième passage de ce que nous avons vu quant à ce serviteur. Mais il y a d'autres éléments, nouveaux ceux-là, qui interviennent. Et c'est eux surtout que je voudrais mettre en valeur. Il y a d'abord, au tout début, l'insistance sur ce qu'on pourrait appeler la prédestination du serviteur, qui a été mise à part dès le sein de sa mère, préparée par le Seigneur pour la tâche que le Seigneur a décidé de lui confier. Vous savez, le mot de prédestination, il est non seulement utilisé dans la Bible pour nous, c'est pas un mot dont il faille avoir peur, mais il est employé aussi pour le Seigneur Jésus. Vous savez qu'il est connu d'avance au sens de prédestiné, et la traduction second a mis prédestiné dans le premier chapitre de la première épître de Pierre, comme celui qui devait être l'agneau sans tache, sans reproche, ce sacrifice. Alors on pourrait dire que le début évoque tout spécialement cela dans le langage du serviteur, mis à part, préparé par Dieu lui-même. Puis il y a cette parole qui a fait pas mal de grands bergers, pas mal de théologiens, au verset 3. Il m'a dit, c'est toi mon serviteur, Israël par qui je ferai resplendir ma gloire. Il est aussi appelé Israël. Mais c'est appelé. Un petit commentaire qu'on pourrait dire critique. En tout cas, c'est l'interprétation que je retiens. Il y en a eu plusieurs, mais c'est celle que je vous propose. Israël avait été établi comme serviteur de l'Éternel. Dieu avait pris tout Israël comme son serviteur pour que ce peuple lui soit un peuple témoin parmi les nations. Mais au lieu que le peuple d'Israël ait fait briller la gloire de Dieu, comme c'était sa mission, les prophètes ont été obligés de dire « À cause de vous, le nom de l'Éternel est blasphémé tous les jours. » L'infidélité d'Israël a fait qu'il n'a pas été à la hauteur de sa mission et qu'il n'a pas fait rayonner la gloire de Dieu comme c'était sa vocation. Maintenant, Dieu dit au serviteur « C'est toi, l'Israël, par qui je ferai resplendir ma gloire. Oui. Toi, tu vas en ta personne. » Résumant en quelque sorte la vocation d'Israël, tu vas faire resplendir ma gloire. C'est le vrai Israël, en une seule personne. Ce que d'ailleurs lui-même a implicitement dit quand il a dit « Je suis la vraie vigne ». Souvent, les gens lisent ce passage dans Jean 15, d'abord en oubliant que « cep » ou « vigne » c'est la même chose, c'est le même mot dans l'original. Donc on dit « Je suis le vrai cep », mais on pourrait aussi bien traduire « je suis la vraie vigne » et en oubliant ensuite que la vigne, c'est le symbole d'Israël dans beaucoup de passages prophétiques. Quand Jésus dit « je suis la vraie vigne », c'est comme s'il disait « je suis le vrai Israël ». Et alors, tous ceux qui sont en lui deviennent Israël en lui. Oui. Mais il est, lui, en sa personne, celui qui condense en quelque sorte la quintessence de ce qu'est Israël pour Dieu. Voilà la parole qui lui est dite ici au serviteur. C'est toi, mon serviteur, Israël par qui je ferai resplendir ma gloire. Oui. Un Israël digne de ce nom glorieux. Oui. Et il n'y a pas que seulement cela. Il y a ensuite le verset 4 qui montre que la suggestion que j'ai cru percevoir au chapitre 42, oui, elle était bien là. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas. Sans doute va-t-il y avoir des pressions propres à le faire fléchir. Nous lisons ici que le serviteur a pu être tenté par le découragement. Les choses ont été tellement difficiles qu'il a eu l'occasion de dire « Je me suis fatigué pour rien ». Et pensez au Seigneur Jésus qui s'est fatigué sur les routes de Galilée et dans tout le pays, qui a rassemblé auprès de lui des foules, et puis cette parole est dure, comment l'écouter, et des gens qui ont commencé à partir. Et puis ses disciples, même le dernier groupe des disciples, qui se dispersent au moment crucial, et même les trois qu'il a choisis, qu'il a emmené avec lui au jardin des Oliviers et qui s'endorment alors qu'il leur demande de veiller et de prier. Vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Et Pierre qui avait dit, quand tous les autres t'abandonneraient, moi jamais de la vie. Pierre qui renie, qui dit, je ne l'ai jamais connu. Non. Il y a eu vraiment de quoi se décourager pour le Seigneur Jésus aussi. Il n'a pas cédé au découragement, mais il y a eu la tentation du découragement. Et ce sort difficile, le verset 7, le déclare encore plus clairement peut-être. Le serviteur est appelé celui qu'on méprise profondément, littéralement de l'âme. que la nation abomine à l'esclave des gouvernants. Le serviteur va connaître vraiment l'humiliation et le rejet des gens qui se dressent contre lui, les puissants de son époque. Voyez comment peu à peu se dévoile que sa mission ne sera pas simplement une mission de prédication, d'enseignement et de conduite des rachetés dans la voie du retour, mais qu'il y a au programme une souffrance étrange qui n'est pas expliquée ici. Ce qui est dit, c'est que Dieu interviendra. C'est que pour le serviteur qui connaîtra cette souffrance, la suite sera la gloire, que des rois à cette vue se lèveront, que des princes se prosterneront. Et puis le troisième passage, alors il accentue tout ce que nous venons de voir maintenant, c'est encore un passage à la première personne, plus intime, il est plus intimiste de ton. Au chapitre 50, les versets 4 à 11. Le Seigneur éternel me donne une langue exercée, de savoir par quels mots soutenir l'épuisé. Chaque matin, il éveille mon entendement pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur éternel m'ouvre l'entendement, et moi, je ne regimbe ni ne recule. Mon dos, je le tends à ceux qui me frappent, mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Mon visage, je ne le dérobe pas aux insultes et aux crachats. Le Seigneur éternel vient à mon aide. C'est pourquoi je ne cède pas aux outrages. C'est pourquoi je me suis fait un visage de silex. Je sais que je n'aurai pas à rougir. Il est près de moi, celui qui me rendra justice. Qui me fera un procès? Comparaissons ensemble. Où est la partie adverse? Qu'elle se présente. Voici, le Seigneur éternel vient à mon aide. Qui pourrait me déclarer coupable? Voici, tous mes ennemis partent en lambeaux comme un vêtement usé, mangé au mythe. Ça, c'est la parole du serviteur. Vous le voyez qui se montre comme le parfait disciple, parfaitement soumis au Père. Ce qui correspond à toute l'attitude que Jésus a montrée. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Méditez les paroles du Seigneur. Et il a tenu bon sous les insultes et sous les crachats, sous les coups, les soufflets qu'on lui administrait. Et alors, il y a deux versets qui sont comme une exhortation qui nous est adressée. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Lui qui marche dans l'obscurité complète, sans la moindre lueur, il se confie dans le nom de l'Éternel, il s'appuie sur son Dieu, par la foi et non par la vue, oui, même dans la nuit. Quant à vous, vous tous qui allumez du feu et vous munissez de brandons, allez dans le brasier de votre feu et des brandons que vous enflammez. De ma main, cela vous arrive, vous gisez dans les tourments. Ce qu'ajoute ce passage, outre ce que j'ai déjà dit, c'est encore des précisions sur les souffrances subies et le caractère judiciaire de l'opposition que subit le serviteur. On lui fait un procès, on l'accuse. C'est dans ce cadre qu'il est maltraité. Et lui se confie en Dieu, même dans cette heure de ténèbres, il ne cesse de se confier en Dieu. Et nous sommes appelés à le suivre. Voilà ce que l'on trouve dans ce troisième passage. Je vais un peu plus vite parce que je ne veux pas dépasser le temps. Le dernier grand passage, il y aurait d'autres plus courts passages qu'on pourrait mentionner, mais le dernier grand passage commence au chapitre 52 et au verset 13. Et bien sûr, vous le connaissez très bien. 52, 13, et puis tout le chapitre 53. Voici, il se montrera sage, mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il connaîtra l'exaltation suprême. De même que sur toi, des multitudes se sont désolées. Oui, on lui a fait perdre forme humaine. Il a été inhumainement défiguré. Oui, il purifiera par aspersion des multitudes de nations. De même, devant lui, des rois se tairont de stupeur, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas rapporté. Ils percevront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. C'est une grande introduction qui souligne l'extrême de l'épreuve subie par le serviteur, défiguré, perdant forme humaine, et en même temps la gloire qui lui sera donnée, qui stupéfiera des rois eux-mêmes. Puis le prophète continue, « Qui a cru à notre message ? Qui a su reconnaître le bras de l'Éternel ? Devant lui, il a grandi comme un rejeton, comme une pousse qui sort d'un sol desséché, sans allure et sans éclat pour retenir nos regards, sans apparat pour nous attirer. Méprisé, laissé pour compte par les hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme quelqu'un dont on détourne les yeux, il a été méprisé. Il n'a trouvé chez nous nulle estime. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il supportait. De nos douleurs, il s'était chargé. Et nous, nous l'avons estimé, frappé de coups humiliants par Dieu. C'était à cause de nos crimes qu'il se faisait, lui, transpercer. À cause de nos fautes qu'il se faisait écraser. Sur lui retombait la punition qui nous procure la paix, et dans sa blessure gît notre guérison. Tous, comme des moutons, nous nous étions égarés, chacun choisissant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui notre faute à tous. On l'a opprimé, humilié, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a traîné comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Par violence judiciaire, on l'a pris. Mais qui se préoccupe de son sort ? Qu'il a été retranché du monde des vivants ? Qu'à cause du crime de mon peuple, le coup mortel lui a été porté ? On l'a enterré avec les impies, il s'est retrouvé dans la mort avec le riche, alors qu'il n'avait jamais causé de tort, ni trompé personne. Il relevait du plan de l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Si tu agrées sa vie en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Ses jours se prolongeront et le plan de l'Éternel par son moyen aboutira. Pour fruit de sa peine, il verra la lumière à satiété. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera les multitudes, car il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui ferai partager le bulletin parmi les multitudes. Avec beaucoup, il partagera les dépouilles, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé compter au nombre des criminels. C'est lui qui a porté le péché des multitudes, et pour les criminels, il est intervenu. Sur ce grand passage, je me contente donc de très brèves remarques. La première, c'est que bien sûr, nous avons confirmation de la destinée de souffrance qui attendait le serviteur. Et maintenant, ce qui devient clair, c'est que sa souffrance ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Car il est dit qu'il sera retranché, il est dit qu'il sera enterré. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une épreuve d'insultes et de coups, comme on pouvait le savoir à la lecture des passages précédents. Le serviteur devra mourir. Aller jusque-là. Ça, c'est le premier des enseignements particulièrement clairs de ce passage. Le deuxième des enseignements de ce passage, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident. Il ne s'agit pas simplement de la conséquence de l'hostilité des hommes à la volonté de Dieu et donc aux serviteurs de Dieu qui lui reste fidèle. La plupart des prophètes ont eu à souffrir. Mais pour eux, on peut dire que c'était un accident, que c'était un effet de cette malignité du monde dans lequel ils étaient envoyés. Quelqu'un a employé l'expression de risque du métier. Pour un prophète qui porte la parole de Dieu, s'il veut le faire fidèlement, il y aura l'adversité. Mais ce n'est pas sa mission même que de souffrir. Il doit remplir sa mission et à cause des autres qui sont hostiles, alors il souffre. Dans le cas du serviteur, ça va beaucoup plus loin. S'il souffre et s'il meurt, ce n'est pas seulement donc que c'est inévitable en ce monde, c'est le plan de l'Éternel. Il a été envoyé pour ça. Il relevait du plan de l'Éternel de l'écraser par la souffrance. Donc c'est bien plus qu'un prophète qui souffre parce qu'il apporte la parole de Dieu. C'est un homme qui est venu pour donner sa vie. Troisième enseignement, nous avons le pourquoi de cette nécessité dans le plan de Dieu qu'un tel homme donne sa vie. La punition de nos fautes est tombée sur lui. À cause de nos crimes, il a été frappé. Si tu agrées sa vie en sacrifice de culpabilité, c'est tout l'enseignement sur les sacrifices et la manière dont le sang doit couler pour effacer les fautes qui nous explique pourquoi il fallait que le serviteur vienne donner sa vie. C'est comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en le portant jusqu'à la mort, jusqu'à l'immolation, que le serviteur nous acquiert la liberté, nous permet de sortir de cette prison, de ce bagne du péché et de la condamnation. Et ça, c'est bien dit, par sa connaissance, pour ceux qui le connaîtront par la foi, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera les multitudes. Nous, les multitudes de pécheurs, nous pourrons être justifiés, acquittés, parce qu'il a porté le péché des coupables. C'est d'une clarté, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Comme c'est dit déjà dans cette prophétie. Exactement le sens principal, axial, de la mort de notre Seigneur Jésus. Tout est dit parfaitement. Et quatrième enseignement qui en ressort, après cette souffrance, ce sera la victoire. La victoire. Il triomphera, il s'élèvera bien haut. Peut-être une allusion à l'ascension, mais si on veut, puisque nous sommes encore tout près du jour de l'ascension. Le triomphe. Et au verset 12, le partage du butin. Vous avez peut-être remarqué que je ne traduis pas, je suis d'accord avec d'autres spécialistes sur ce point, mais je ne traduis pas que le serviteur partagera le butin avec des puissants. Comme s'il était lui mis au rang de quelques puissants pour partager le butin avec eux. Je ne crois pas du tout que ce soit le sens. Ce n'est pas correct ici. Je lui ferai partager le butin avec, parmi les multitudes qui sont les bénéficiaires de son œuvre, qui sont justifiés et dont il a porté les péchés. Oui. Il s'agit du butin de son œuvre, c'est-à-dire de la justice, de la paix, de la joie, de tous les biens du royaume de Dieu qu'il acquiert par son œuvre d'agneau de Dieu immolé, et qu'il partage avec ceux pour lesquels il est venu. Il s'agit de ce dont nous vivons, de ce dont nous jouissons dans la reconnaissance, ce partage du butin. Vous voyez comment ce passage est d'une richesse infinie. Alors, trois ou quatre points de conclusion. Nous avons ici d'abord ce qui nous permet de lire le Nouveau Testament en suivant l'axe principal, en comprenant vraiment pourquoi le Seigneur Jésus est venu donner sa vie. Deuxième point, nous pouvons nous émerveiller du miracle de la prédiction à long terme. Ésaïe a dit tout ça des siècles avant la venue de Jésus. Et tout cela s'est accompli exactement. Et le triomphe, la résurrection, la vie après la mort, cela est impliqué ici. Le miracle de la prédiction, nous pouvons le toucher en quelque sorte en lisant ce passage. Troisièmement, le Nouveau Testament nous dit que bien que le serviteur seul donne sa vie pour enlever tous les péchés, nous sommes appelés à suivre ses traces. Et la première épître de Pierre cite ce passage en disant que, cite le chapitre 53 d'Ésaïe en disant que le Seigneur nous a donné un exemple. Souffrir dans ce monde, en suivant le serviteur. Et puis le dernier point, j'aime toujours le faire ressortir quand je parle sur les chants du serviteur, sur les poèmes prophétiques du serviteur. Je me rappelle que dans mon enfance, c'était au tabernacle, il y avait un tract qui enseignait à mettre son nom à la place de nous, notre, etc., dans le passage d'Ésaïe 52-53, dans ce dernier passage ici. Et je vous recommande de le faire au moment de votre recueillement personnel la prochaine fois. Lisez ce passage, et puis au lieu de lire « c'était à cause de nos crimes qu'il se faisait transpercer », lisez « c'est à cause des crimes de », et puis dites votre nom simplement, mettez votre nom. Lisez tout le passage comme ça. Je vous assure qu'il y a une bénédiction là. Voilà, l'heure est juste arrivée. Moi, je suis prêt à répondre encore à deux ou trois questions si vous désirez en poser, mais bien sûr, certains autres doivent peut-être partir. Donc en juin, je compte traiter brièvement de la suite du livre d'Ésaïe, puis achever sur Ésaïe, conclure sur Ésaïe. Voilà, donc comme l'heure est arrivée, il n'y a pas de questions particulières, donc